C-H-I-S-C-H.
Théophile Gautier nous dit que dans l'état du haschich, ce qu'on voit, c'est soi-même agrandi, sensibilisé, excité démesurément. Et à ce moment-là se produit l'anomalie qui suit toujours l'intensité. Un dérèglement dans une machine surtendue, survoltée, un dérèglement suit fatalement l'expérience, la première phase de l'expérience. Et ce qui va se produire, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui est à la base de la grande théorie romantique, c'est ce que les Allemands ont appelé l'Einfühlung.
Le nom seul le dit. En arabe, celui qui consomme le hachis, ce sont des hachichins, dont nous avons fait le mot assassin.
Henri de Montfred, 1971.
Parce que ceux qui employaient cette drogue, qui s'étaient réfugiés dans une montagne précisément parce qu'ils l'employaient d'une façon illégale, c'est-à-dire qu'ils ne s'astreignaient pas aux règles qu'on impose à ceux qui l'emploient. Et ils descendaient dans les plaines, dans des accès de folie, massacrés, des choses épouvantables, d'où le nom assassin.
Un extrait du documentaire qui avait été produit par Olivier Chaumel et Françoise Camard pour la Fabrique de l'Histoire en octobre 2015 autour de l'histoire du haschich, suivi par le titre Cannabis de Nino Ferrer. Bonjour Marie-Geoffrey Roustine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'INSERM. Vous avez fait des études de sciences politiques, de sociologie et vous travaillez justement sur l'acceptabilité de ces questions des politiques des drogues dans les sociétés européennes et en particulier dans la société française. Et nous voulions vous avoir cette semaine parce que on a appris que le gouvernement refusait l'usage du cannabis récréatif. Ça a été encore reprononcé hier, mais que de son côté le CSE, le Conseil social et environnemental, préconisait une libéralisation dans ce domaine et que la question du cannabis thérapeutique était à nouveau posée dans la société française. On voulait vous demander votre avis de chercheur sur ce regard particulier porté par la France sur cette question des drogues et en particulier sur cette question du cannabis. Ça remonte où, cette volonté d'interdiction, cette difficulté d'accepter ou de libéraliser le cannabis dans la société?
Alors, cette question des drogues, c'est une question complexe. Et donc, elle agite la France, mais elle agite également d'autres pays. Hein. Vous parliez de l'Europe, mais par exemple, les États-Unis sont un des pays les plus répressifs au monde hein, en matière d'usage de drogue. Et la guerre à la drogue, qui a été évoquée, a été inventée par Nixon, qui a été évoquée, ah oui. Qui a été évoquée tout à l'heure. Alors, en France...
Et qui a été un véritable échec aux États-Unis, en tout cas.
Qui est un échec partout. C'est-à-dire que la guerre à la drogue a donné lieu, donc, à la prohibition, donc qui consiste à dire qu'il faut éradiquer les drogues dans les sociétés pour protéger les populations. Et ce qu'on voit, c'est que malheureusement, les pays qui sont les plus prohibitionnistes non seulement ne permettent pas de faire diminuer la consommation de drogue dans la population, mais en plus entraînent un nombre de dommages extrêmement importants. C'est le cas, par exemple, en Russie. Alors là, on est loin du cannabis, mais en Russie, par exemple, qui est un pays qui est extrêmement strict vis-à-vis des pratiques d'injection et qui interdit la libéralisation des seringues, contrairement à la France, c'est un des pays où on est les taux de VIH les plus importants. Donc en fait, interdire la consommation a des effets délétères. Alors pour revenir à la question du cannabis, mais bon, qui a un lien avec les politiques des drogues de manière générale, La France a un regard particulier parce que la loi qui régit l'usage de drogue aujourd'hui a été votée le 31 décembre 1970.
Et ça veut dire que comme pour la question de l'homosexualité dont on parlait auparavant, cette fin d'année 60 et ce début de l'année années 70 sont cruciaux.
Tout à fait. En fait, il y a des parallèles. Quand je vous entendais tout à l'heure, il y a vraiment des passerelles à faire entre ces deux questions. Et en fait, dans les années 70, on est juste après mai 68. Et donc, il y a dans la volonté des législateurs l'idée qu'en criminalisant l'usage de drogue, on va criminaliser des groupes de population. Et donc, l'idée du législateur à l'époque, c'est de se dire, on a des groupes de hippies, entre guillemets, je reprends les termes de l'époque, qui sont contestataires vis-à-vis du pouvoir en place. Et donc, ces groupes de hippies sont perçus comme des consommateurs de drogue. Mmh. Et donc, en criminalisant la pratique de l'usage de drogue, le pouvoir politique pense à l'époque pouvoir criminaliser aussi ces groupes de consommateurs. Donc, en fait...
Ouais, le pouvoir politique ne doit pas lire Jean-Patrick Manchette à cette époque-là, parce qu'il aurait compris que ça n'était pas le cas. Mais voilà.
Exactement. Mais en tout cas, dans l'esprit de l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on le voit dans les débats parlementaires, il y a l'idée, en fait, que certains groupes de population qui vont consommer des drogues sont des groupes de population qui appartiennent souvent, dans l'esprit du politique, aux classes populaires, et donc qu'il faut réguler tout ça et encadrer tout ça en interdisant.
Mais alors, revenons à cette question du cannabis qui est en débat cette semaine un peu partout. Cette question du cannabis est particulière ou il faut la lier justement à toutes ces questions des politiques des drogues sur lesquelles vous avez d'ailleurs conçu un numéro de la revue Esprit il y a quelques temps?
Alors, moi, à titre personnel, je pense que il est important de penser la question du cannabis de manière globale. Mais il y a une spécificité sur la question du cannabis par rapport aux autres drogues, c'est son niveau de consommation. C'est-à-dire le cannabis est très largement consommé en France. On a la moitié de la population qui a déjà expérimenté le cannabis, près de 10% des Français qui en sont des consommateurs réguliers. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle, dans le débat public, il y a une spécificité du cannabis, parce qu'en fait, les Français se sentent concernés. Parce que autour d'eux, ils ont soit eux-mêmes consommé du cannabis, soit des proches qui consomment du cannabis. Et donc c'est pour ça que le débat, il est particulièrement visible et particulièrement agité sur la question du cannabis, parce que chacun se sent concerné. Alors que ça va moins être le cas, par exemple, sur la question de l'injection de l'héroïne ou de la cocaïne, qui concerne là un nombre beaucoup plus restreint de consommateurs.
Et tout de même, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde veut y prendre part à ce débat. On voit bien qu'il y a à la fois des citoyens consommateurs et non consommateurs, qu'il y a des hommes politiques de niveau national, mais aussi des élus locaux, parce qu'évidemment, ils ont affaire dans leur propre ville à ces questions de trafic, et qu'ils n'ont pas tous les mêmes approches, et qu'elles ne sont d'ailleurs pas forcément partagées entre gauche et droite, de façon relativement classique, Marie-Geoffrey Roustil.
Alors, ce qui est intéressant, justement, sur la question des drogues, c'est que, généralement, le clivage droite-gauche ne fonctionne pas si bien que sur d'autres sujets. Par exemple, sur la question de la politique de réduction des risques, donc la mise en vente libre des seringues, les traitements de substitution... Là, ce sont des gouvernements de droite, en particulier souvent des femmes, comme Simone Veil, comme Michel Barzac, qui ont voté donc des politiques de libéralisation. Sur la question du cannabis, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on voit que la gauche et la droite peuvent... On peut entendre des discours avec des volontés d'encadrement très fort, par exemple, du côté de la gauche, avec... la volonté d'encadrer pour certains et de continuer à interdire. Et à droite, on peut aussi parfois entendre des discours avec une volonté d'interdire, mais parfois aussi une volonté de libéraliser, avec l'idée que derrière cette question de la libéralisation de la vente du cannabis, il y aurait des profits à faire. Mmh. Donc avec une...
L'idée qu'on pourrait être entrepreneur d'une certaine
façon. Tout à fait, entrepreneur avec une idéologie un peu néolibérale derrière, avec le modèle de la légalisation du cannabis aux États-Unis qui a donné lieu à un commerce florissant, et donc avec l'idée qu'il pourrait y avoir derrière la création d'emplois.
Et puis, il y a aussi cette dimension, si on est élu local, qu'on soit de gauche ou de droite, que ferait-on si, d'un seul coup, trop rapidement, cette question de la libéralisation entrait en jeu pour le cannabis, il y aurait déstabilisation de certains trafics, déstabilisation de certains quartiers, et donc, à partir de ce moment-là, peut-être des flux de circulation monétaire qu'on ne pourrait plus véritablement contrôler. Certains élus en parle ouvertement.
Alors, il y a cette question-là, et puis également, ce que d'autres élus mettent en évidence, c'est la possibilité qu'il puisse y avoir des reports du trafic de cannabis vers d'autres types de trafic. Donc, en fait, cette question, elle est très complexe. Et pour le moment, je pense que, enfin, ce qui est important également, c'est de regarder ce qui se passe à l'étranger. C'est-à-dire que la France sur le cannabis, le gouvernement l'a rappelé, a la volonté, en fait, de distinguer ce qui est de l'ordre du thérapeutique, donc avec l'autorisation par l'ANSM de la mise en place du cannabis thérapeutique, mais de rester sur une position très stricte qui vise à continuer à criminaliser l'usage privé de cannabis, alors qu'à l'étranger, vous avez par exemple aux États-Unis, au Canada ou en Uruguay, une légalisation du cannabis. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder ce qui se passe à l'étranger. Alors, les dernières données montrent que les choses sont plus complexes que ce qu'on pouvait imaginer. Mmh. C'est-à-dire que au début de la légalisation du cannabis, de nombreux chercheurs, hein, dont je fais partie, ont trouvé que c'était une perspective intéressante parce qu'en fait, ce qu'on sait, je viens de le dire, la prohibition ne fonctionne pas. Donc en fait, comme la prohibition ne fonctionne pas, on se dit la légalisation peut être une solution. Mais en tout cas, ce que je continue à titre personnel à penser que la prohibition ne fonctionne pas, mais les dernières données qui ont été publiées par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies sur l'expérience américaine montrent par exemple que le fait que l'encadrement soit fait dans un cadre privé peut donner lieu à un certain nombre d'abus, avec une course à des cannabis de plus en plus dosés, par exemple, et donc une exposition à des risques accrus. Ce qu'on peut voir, d'après les dernières données, c'est que le fait de légaliser fait augmenter la consommation en population adulte. Par contre, il y a plutôt une baisse ou une stabilisation chez les plus jeunes. Mais ce qui est très intéressant également aux États-Unis, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a une discrimination raciale aussi qui est très présente dans les avec la question de la légalisation du cannabis. C'est-à-dire que le marché ne profite qu'aux blancs et les populations noires et latinos en sont exclues. Donc en fait, c'est aussi un vecteur de reproduction des inégalités, alors qu'on avait l'impression, en tout cas, c'est présenté en France parfois comme un moyen de réduire les inégalités sociales et de créer des emplois.
Et si on conclut avec vous sur cette question du cannabis et de ses usages, mais aussi des regards portés par la société et par la politique sur ces usages du cannabis, on peut s'étonner tout de même. Le documentaire dont on a passé un extrait tout à l'heure revenait sur ce 19e siècle pour qui les drogues étaient une sorte de récréation. D'ailleurs, on appelle ça usage récréatif. Une récréation pour les intellectuels, pour toute une partie de la population qui considérait que c'était positif que de avoir un usage de ces drogues comme le cannabis ou comme l'opium. Qu'est-ce qui a viré au bout du compte pour que la loi de 70 dont vous parliez tout à l'heure et puis le regard porté sur cette consommation de drogue soit différent aujourd'hui de ce qu'elle était il y a un siècle?
Mais c'est la question de l'instrumentalisation politique et des groupes sociaux concernés. C'est-à-dire qu'avec mai 68, c'est la question des jeunes qui occupent le devant de l'espace public. Et donc, il y a à la fois la volonté de criminaliser certains groupes de consommateurs, mais la crainte également pour certains hommes politiques que les jeunes se mettent à consommer. Et donc, les jeunes, c'est potentiellement leurs propres enfants. Donc, ce qui caractérise le débat aujourd'hui, c'est la dimension morale. Et ça, on peut effectivement, se dire que c'est un vrai problème en France que la question morale soit au centre de la question des drogues. Parce que ce qu'il est quand même important de rappeler, c'est que la majorité des usages de cannabis en France et ailleurs sont des usages régulés, comme vous le rappeliez. Et donc, en fait, ces usages régulés, ils ne posent pas de problème ni pour les individus, ni pour la communauté, ni pour la société. En revanche, il y a des usages de cannabis qui peuvent devenir problématiques. Et c'est, en fait, dans ce sens-là qu'il faut plus de santé publique, plus de prévention. Et c'est pour ces usages qui ne sont pas régulés qu'il faut penser les choses. Mais c'est pas en criminalisant l'usage pour tout le monde qu'on va régler la question des usages problématiques, là, qui relèvent plutôt d'une prise en charge sanitaire, sociale.
Vous n'avez pas l'impression de piétinement, vous qui travaillez depuis un certain temps sur ces questions, Marie-Geoffrey Roustide, c'est-à-dire que au bout du compte, on rejoue un peu toujours la même scène, même si elle est sûrement différente chaque décennie, mais néanmoins, un gouvernement qui dit non à l'usage récréatif, oui peut-être à l'usage thérapeutique, c'est quelque chose qu'on a avancé sur ces questions-là, si on considère que c'est un progrès. En tout cas, on a changé de position. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, j'ai l'impression qu'il y a Des avancées du côté du thérapeutique, parce qu'en fait, il y a quelques années, il y avait une confusion entre les débats et la vision morale de l'usage de drogue était tellement prégnante qu'on ne pouvait même pas parler d'usage thérapeutique du cannabis. Donc le fait que le gouvernement ait accepté d'avancer sur l'usage thérapeutique, ça c'est déjà une bonne chose. En revanche, vous avez raison, sur la question des drogues de manière générale, il y a des avancées qui se font à l'étranger, mais il serait vraiment temps d'avoir un débat en France avec l'ensemble des parties prenantes pour dépasser cette vision morale et restrictive des drogues qui empêche de mettre en place des régulations qui soient profitables pour tout le monde.
Merci beaucoup Marie-Geoffrey Rostine. On peut vous lire avec d'autres auteurs sur les politiques des drogues dans un numéro que vous avez coordonné de la revue Esprit qui date de 2017. Merci d'être venu à la Fabrique de l'Histoire ce matin.